À une semaine de la Pentecôte, ce texte, toujours tiré, comme les derniers dimanches, du testament spirituel de Jésus lors de la dernière scène, ses ultimes confidences à ses disciples, qu'il appelle désormais ses amis, eh bien, voilà qui nous prépare à l'irruption de cet esprit qui nous fait connaître la vérité. La vérité. La grande vérité, c'est que Jésus est Dieu, que Jésus est venu dans le monde, de même que le Père, à l'époque de l'Éden, se promenait dans le jardin à la brise du soir pour visiter Adam et Ève. Eh bien, il est venu du ciel et il s'est promené dans son jardin parmi nous pendant 33 ans. Ce Dieu-là, c'est Jésus-Christ. Il est vrai Dieu. C'est pourquoi il est la source du culte chrétien. Sinon, s'il était seulement homme, on ne croirait pas en lui, on ne pourrait pas fonder une religion sur lui. Et on ne pourrait pas être assuré de la vérité, pas davantage, malgré toute la bonne volonté des prophètes, s'il n'était qu'un prophète, qu'un homme. Non, il est véritablement Dieu. Et c'est ce que nous confessons. C'est notre foi, elle repose là-dessus fondamentalement. Toute notre confiance repose sur cette révélation fondamentale. Ce n'est pas un Bouddha, ce n'est pas un Mahomet, ce n'est pas je ne sais qui. C'est Dieu lui-même qui est venu du ciel et qui est retourné au ciel après sa résurrection, sous les yeux de ses disciples. Qui nous ont transmis leur témoignage. Il veut que nous soyons unis dans ce nom, son nom, que le Père lui a donné. Vous voyez, Christ a toujours agi en tout en fonction de Dieu. Et en tant que Dieu, pas seulement en obéissance au Père, mais il a toujours proclamé sa divinité aux hommes. Il ne l'a jamais caché. Et on voit dans le mystère de Judas, là c'est dans les Actes des Apôtres, et c'est mentionné dans l'Évangile, en renvoi, que Judas n'est pas entré dans cette perspective, et c'est pourquoi il s'est perdu. Ce Judas, eh bien, il est désormais dans l'enfer, bien sûr, dans le néant, c'est-à-dire dans le lieu où Dieu n'est pas. Être dans un lieu où Dieu n'est pas, c'est insupportable. Nous appelons ça l'enfer. Un monde de tristesse, un monde de froidure, un monde implacable, un monde de solitude, un monde d'inaccomplissement perpétuel, infini. La divinité du Christ nous sauve. Et il nous dit que le fait d'adhérer à sa divinité, eh bien, nous procure une immense joie. C'est pourquoi il introduit le thème de la joie à ce moment-là. Maintenant, je viens à toi et je parle ainsi dans le monde pour qu'ils aient en eux ma joie et qu'ils en soient comblés. C'est parce qu'elle provient de Dieu lui-même. Cette vérité, cette révélation, qu'elle peut apporter la joie, parce qu'elle est vivante, la parole de Dieu. Et cette parole de Dieu, eh bien, c'est Dieu lui-même, elle est sortie de sa bouche. Jésus porte le nom de Verbe de Dieu, parole divine. La vérité maintenant qui s'oppose au monde, et le monde qui s'oppose à la vérité, c'est l'autre thème de ce discours de Jésus. Il y a une guerre entre le monde et Dieu. Alors Jésus est explicite ici. Je ne suis pas du monde, eux non plus ne sont pas du monde. Et apparemment, il n'a pas envie de s'en rapprocher le moins du monde. Il n'a qu'une seule envie, c'est de tirer les disciples de ce monde. Pourtant, il respecte la volonté du Père qui veut que nous soyons mis à l'épreuve. Et c'est notre purification de ce péché originel par cette existence que nous menons dans la foi, sans être du monde, mais victimes de la haine du monde qui ne reconnaît pas en nous le vivant miroir de ses projets, de ses marionnettes. Eh bien oui, nous sommes dans l'épreuve, la grande épreuve dont parle le texte de l'Apocalypse. Maintenir sa foi dans un monde totalement hostile, un monde devenu complètement imperméable à Dieu, mobilisé entièrement contre Dieu, c'est les temps ultimes que nous présente le texte de Jean, l'Apocalypse. Et en même temps, c'est une révélation sur la nature du monde. Le monde blasphème le nom du Christ, continuellement, parce que le monde, eh bien, refuse la divinité du Christ. C'est l'islam, par exemple, tranquillement affirme sans cesse, d'une manière comme bon enfant, « Oh ben, Jésus, c'est un prophète, c'est écrit à la craie, à l'entrée de la chapelle, il y a une musulmane qui est venue avec ses enfants, elle leur a fait du catéchisme, elle leur a fait écrire. » Ils ne se sont pas contentés d'écrire « Allah », l'autre parole c'est « J'aime Mahomet », ils n'ont pas omis, c'est pas eux bien sûr, c'est leur mère, d'écrire « Jésus est un prophète », à savoir quoi ? Ben, Jésus, c'est pas Dieu. Ben, ça, c'est blasphémer le nom de Dieu, le nom de Jésus, ce saint nom qui nous apporte la joie et la vie. Et le monde entier fait ça, les incroyants aussi, de fond. Et d'une manière bon enfant, comme si c'était pas grave, comme si la vérité n'était pas en jeu, comme si le destin éternel de l'homme ne relevait pas de ces paroles-là. Ils s'en vont comme Judas, à leur perte, s'ils ne retournent pas vers Dieu. Heureusement, Dieu est miséricordieux. Alors, après cette vie, il a prévu quand même un purgatoire pour ceux qui, malgré tout, maintenant qu'ils l'auront vu, pourront décider de confesser son nom. Je leur ai donné ta parole. La connaissance de la vérité, c'est une chose inimaginable, c'est une force inouïe. Nous avons cette force, nous connaissons la vérité à cause des témoignages, des commandements de Jésus, de ses paroles, de ses discours dans les évangiles. Oui, il nous a tout dit à propos de ce que le Père lui avait demandé de nous transmettre. Et le fait de connaître les volontés divines, la pédagogie divine, fait de nous des amis de Dieu, disait-il. Je vous appelle mes amis, parce que tout ce que le Père m'a dit, je vous l'ai fait connaître. La vérité, c'est un luxe dans un monde où il n'y a vraiment aucun repère pour la découvrir. Le monde, c'est comme une mer, la surface de la mer, les flots inconstants, on s'enfonce dedans, il n'y a pas de sentier qui tienne, on ne peut pas rien cartographier, c'est toujours en mouvement, comme les médias, les nouvelles, elles se contredisent les unes les autres, elles se heurtent, ça passe comme un flux, et à la fin, qu'est-ce qu'on a retenu ? Rien. C'est de l'inconsistance. La vérité, au contraire, ordonne toute chose, trace des sentiers, dresse des édifices. La vérité, c'est un luxe dans le monde ténébreux où nous sommes. On apprend aux enfants, eh bien, à blasphémer le nom de Dieu, le nom de Jésus. Le nom de Jésus, Dieu, c'est abstrait. Dieu, le mot Dieu, c'est un terme plus davantage philosophique que religieux quand on y pense. C'est Dieu, ça vient de Seigneur, bien sûr, mais celui qui règne. Mais Jésus, lui, c'est concret, qui m'a vu a vu le Père. Quand on lit les évangiles, on voit, on perçoit la formation du visage de Jésus quasiment. Alors bien sûr, c'est pas comme une peinture. Mais lorsqu'on lit l'Évangile, quand on s'immerge vraiment dedans, eh bien, le visage de Jésus se dessine devant les yeux de notre cœur. On pourrait presque le peindre. comme Sœur Faustine l'a fait avec son fameux tableau. Oui, il y a cette grande guerre. Nous voudrions qu'elle n'existe pas. Je suis le premier qui désirerait m'étirer paresseusement dans un Éden bienveillant. Mais ce n'est pas possible. Le combat spirituel est là, le monde est là pour faire pression sans cesse sur les chrétiens. Voyez l'Afrique noire qui est la proie de la violence des djihadistes. Et ils ne s'arrêteront que lorsqu'ils auront tué tout le monde ou converti tout le monde. Ça n'aura pas de fin. La violence, le monde, c'est la parabole de Jésus, des enfants qui s'interpellent sur la place. Le monde dit « Ah, nous avons chanté, mais vous, chrétiens, ben, vous n'avez pas applaudi. On a pleuré, on a entonné des chants de deuil et vous n'avez pas pleuré. » Le monde exige le mimétisme, l'obéissance de l'identique. Le monde renie toute forme d'intériorité, toute forme de particularité, de singularité. Le monde, lui, c'est comme la tour de Babel, c'est fait de briques standards, où les êtres humains sont réduits à l'état de briques pour former le grand édifice de l'idéologie. C'est un monde sans âme. Donc ce monde ne peut pas connaître Jésus. Ce monde ne peut pas accepter Jésus. C'est pas possible. C'est un monde d'aveugles. Les gens sont conduits par des forces qu'ils ignorent. Ces démons qui les conseillent si mal, qui les portent, qui les conduisent jusqu'à l'abîme. Ils ne s'en rendent même pas compte. Pour s'en rendre compte, eh bien, il faut se tourner vers son intériorité, vers son cœur, et méditer un peu le sens de la vie. Et Dieu se manifeste aussitôt. Hein. Il ne laisse jamais personne seul face à l'énigme de la condition humaine. Mais il faut faire ce premier pas à chaque fois. Enfin, ça s'achève sur l'idée de la sanctification. Je me sanctifie moi-même. Il y a deux facettes au verbe « sanctifier ». Ça veut dire « rendre saint » fondamentalement. Et c'est pourquoi Jésus dit « Je veux me sanctifier afin qu'ils soient eux-mêmes sanctifiés dans la vérité. » Être rendu saint par la vérité, être rendu pareil à Dieu dans la vérité. L'autre sens de « sanctifier » qu'utilise Jésus pour lui-même, c'est se proclamer saint. Il se proclame le saint. Le saint, c'est un des noms de Dieu dans l'Ancien Testament. Il est le saint. Et la foi dans sa divinité est source de sanctification pour les hommes. Qui m'a vu a vu le Père. Il faut regarder Jésus. Et quand on regarde Jésus, on voit Dieu. Et on a cette joie au fond de notre cœur parce qu'il nous propose de devenir ses amis. Pas simplement des serviteurs, pas simplement des créatures avec lesquelles il pourrait jouer, qu'il pourrait observer sous son microscope divin. Non, rien de tel. Un grand respect dans une différence absolue. C'est l'œuvre de Dieu miséricordieux. Alors, au moment de, juste avant la Pentecôte, où nous allons recevoir cet esprit de vérité qui nous apprend toutes choses, eh bien, préparons-nous à recevoir ce grand cadeau et rendons grâce à Dieu qui nous est envoyé sans nous laisser orphelins sur la terre, cet esprit qui nous permet de dire « Abba, Père ».